Bonjour, je suis Céline Kallmann. Bienvenue dans le titre à la une. Le Kremlin refuse de commenter la revendication du groupe terroriste État islamique tant que l'enquête est en cours. Près de 72 heures après l'attaque meurtrière du Crocus City Hall, le pouvoir russe persiste à accuser l'Ukraine d'être impliquée. Les suspects, torturés, ont reconnu leur culpabilité. La Russie compte et pleure les morts du Crocus City Hall. Une attaque sans précédent, survenue ce vendredi 22 mars dans la banlieue nord-ouest de Moscou. Plusieurs hommes armés pénètrent dans cette salle de concert.
L'actualité de ce vendredi soir qui nous emmène, vous l'avez compris, à Moscou, dans la banlieue de Moscou, avec une attaque, un massacre, un attentat sauvage. Ce sont les mots employés par le Kremlin ce soir, après des scènes extrêmement compliquées.
Il y a au moins 40 morts et plus de 100 blessés. Par ailleurs, selon les secours, le toit de la salle de concert où a eu lieu cette fusillade s'est effondré.
Les services de secours, cités par l'agence Interfax, font alors état d'un groupe de 2 à 5 personnes non identifiées portant des uniformes tactiques et armées d'armes automatiques. Ces hommes ont ouvert le feu sur les agents de sécurité à l'entrée de la salle de concert. Très vite, des chaînes Telegram d'actualité publient des vidéos montrant au moins 2 hommes armés avançant dans le hall du bâtiment. Sur d'autres images, on distingue des cadavres, mais aussi des hommes et des femmes se précipiter vers la sortie. Une journaliste raconte que les personnes qui se trouvaient dans la salle se sont allongées sur le sol pour se protéger des tirs. Cela a duré pendant 15 à 20 minutes. À l'intérieur de la salle de concert, donc, les assaillants mitraillent les rangs supérieurs et ils mettent le feu. Le premier bilan humain est très lourd, au moins 40 morts. Les proches de ceux qui étaient dans la salle se précipitent sur place, désemparés.
Je me suis immédiatement précipité ici. J'ai appelé ma femme, son téléphone est éteint. Elle est allée au concert avec une amie, le téléphone de son amie est également éteint. Elles sont injoignables, je ne sais pas où les chercher. Personne ne nous donne d'informations. J'espère que tout ira bien. Nous avons également appelé les hôpitaux les plus proches, mes amis m'aident à passer ces coups de fil. Personne ne nous donne d'informations. Ils disent d'attendre et vous donnent un numéro d'urgence.
Douze heures après l'attaque, le bilan évolue encore. Philippe Godin, sur BFM TV.
Les toutes dernières informations avec d'abord ce bilan qui s'est encore alourdi. 115 morts désormais, bilan encore provisoire après cette attaque terroriste revendiquée par l'État islamique. 11 arrestations ce matin, 4 assaillants parmi eux, mais d'autres sont encore dans la nature. Ils sont activement recherchés.
Et vous l'avez entendu, très vite après l'attaque, l'État islamique revendique le massacre. Le profil des premiers suspects est révélé. Des suspects qui ont été arrêtés et non pas neutralisé. Patrick Sauss, éditorialiste international sur BFM TV.
Des médias réputés très proches du pouvoir ont donné et les identités et les âges, plutôt des hommes entre 35 et 50 ans. Issus du Tadjikistan, 11 arrestations en tout, ça veut dire qu'il y a déjà une tentative de démantèlement d'une cellule, soit des arrestations de complices.
Le président russe, Vladimir Poutine, attend le lendemain de l'attaque pour prendre la parole.
Les autorités chargées de l'enquête et les services de police feront tout ce qui est en leur pouvoir pour établir tous les détails du crime. Mais il est déjà clair que nous n'avons pas seulement été confrontés à une attaque terroriste soigneusement et cyniquement planifiée, mais à un meurtre de masse préparé et organisé de personnes pacifiques et sans défense. Les criminels ont tué de sang-froid et intentionnellement, ils ont tiré à bout portant sur nos citoyens et nos enfants.
Et dans son intervention solennelle, Vladimir Poutine ne mentionne pas l'organisation État islamique. Il assure cependant qu'une fenêtre a été préparée pour permettre le passage en Ukraine des terroristes, comparé à des nazis. 48 heures après l'attaque, les 4 assaillants interpellés sont emmenés dans un tribunal de Moscou. Avant cela, ils ont été interrogés, ou plutôt torturés. Paul Gogo, correspondant BFM TV à Moscou.
Je précise aussi que cette partie, on va dire, judiciaire intervient après une partie extrajudiciaire. Ces dernières heures, ces hommes, notamment ces quatre terroristes présumés, ont été confiés à des militaires qui les ont torturés. L'un d'entre eux, on lui a coupé l'oreille et c'est ensuite qu'on leur a posé des questions filmées donc par ces hommes et des images qui ont été diffusées ensuite sur les réseaux sociaux. Et effectivement, dans les propos tenus par ces hommes, c'est particulièrement difficile de comprendre où est la vérité, où sont les messages que les autorités russes ont peut-être voulu faire passer.
L'orientation principale prise pour l'heure par l'enquête russe est donc de prouver une implication ukrainienne.
Un quotidien moscovite écrit ce matin, OEI ou Ukraine, qui est à l'origine de ce terrible crime? Un spécialiste russe de l'antiterrorisme estime dans l'article que les recruteurs directs étaient probablement des islamistes radicaux de l'État islamique, mais qu'en réalité, dit-il encore, les mêmes méthodes de recrutement via l'application Telegram sont également utilisées par les services spéciaux ukrainiens.
De son côté, l'Ukraine a immédiatement démenti être à l'origine de l'attaque. Thierry Arnaud, éditorialiste politique international sur BFM TV.
Alors que l'attentat était toujours en cours, une première déclaration de Mykhailo Podolyak, qui est le conseiller du président Zelensky, affirmant de manière catégorique que l'Ukraine n'avait strictement rien à voir avec cet attentat. Et voilà, ils ont bien compris, les Ukrainiens, que cette petite musique, inévitablement, elle allait apparaître dans les heures qui suivaient. Et donc, encore une fois, ils ont choisi très vite de la préempter. Et là encore, vous voyez, une nouvelle déclaration des services, suivie immédiatement après d'une nouvelle déclaration des Ukrainiens.
Ce lundi 25 mars, plusieurs explosions ont été entendues à Kiev. Anne-Laure Bance, envoyée spéciale de BFM TV, dans la capitale ukrainienne.
Cette sirène, elle a été suivie aussitôt par plusieurs fortes explosions dans le centre-ville de Kiev. C'est assez rare, hein. On a l'habitude de venir plusieurs fois, nous, ici à Kiev. C'est la première fois qu'on entend aussitôt des explosions.
Une nouvelle fois, ce 25 mars, le Kremlin a refusé de commenter la revendication de l'organisation État islamique concernant l'attentat près de Moscou. L'enquête est en cours et l'administration présidentielle aurait tort de faire des commentaires sur le déroulement de l'enquête. Nous ne le ferons pas, a assuré le porte-parole de Vladimir Poutine. Ce dernier a aussi précisé que le président russe n'avait pas prévu, à ce stade, de se rendre au Crocus City Hall, lieu de l'attentat. Bonjour Julia Friedrich.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au Global Public Policy Institute, spécialiste du conflit russo-ukrainien. Vous étudiez notamment les dynamiques de sécurité dans les conflits, dans l'espace post-soviétique. Le bilan de l'attentat qui a touché le Crocus City Hall près de Moscou ce vendredi 22 mars est terrible. Plus de 130 morts, une centaine de blessés. Les quatre principaux suspects, eux, ont été écroués dès hier soir. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat. Pour les experts du terrorisme mondial, c'est sa branche afghane qui serait donc la principale suspecte. D'ailleurs, les États-Unis affirment avoir prévenu la Russie de ces risques d'attentat. Pourquoi est-ce que d'abord la Russie a été ciblée?
Alors, ça c'est une bonne question. Je crois que pour nous, le terrorisme djihadiste, c'est surtout quelque chose qui est dirigé vers l'Occident, entre guillemets. Mais en vrai, ce n'est pas comme ça. La plupart des victimes n'est pas en fait dans des contextes occidentaux. En plus, il ne faut pas oublier que Moscou est très active dans les régions que l'on associe plutôt avec la terreur djihadiste, comme notamment le Sahel et la Syrie. Et finalement, en fait, le danger d'une radicalisation en Asie centrale, ça, c'était bien connu pour au moins 10 ans, si pas plus. La proximité de l'Afghanistan, mais aussi parfois une manque d'opportunités de travail. Ce sont quand même des sociétés assez religieuses, traditionnalistes. Et pour eux, c'est sûr que la Russie, ça... Enfin, c'est une cible potentielle.
Vladimir Poutine persiste à accuser l'Ukraine d'être impliquée dans cette attaque. Est-ce que cette position est tenable dans la durée?
Je crois que ce n'est pas très surprenant que Vladimir Poutine il essaye de revendiquer que c'est en fait la faute de l'Ukraine, mais basé sur toutes les informations qu'on a en ce moment-là, c'est très improbable. En plus, Kiev a déjà démenti ces accusations et on est quand même des alliés de l'Ukraine et on n'a pas de raison de douter ce gouvernement. Surtout qu'il est clair que ça sert Moscou de rendre Kiev coupable. Au lieu d'admettre que c'est peut-être une autre menace.
Est-ce qu'il tient aussi cette position parce qu'il n'a pas envie d'ouvrir un autre front, celui contre Daesh, sachant qu'il est déjà en guerre contre l'Ukraine?
Je crois que ça, c'est un élément. Un autre élément, que c'est bien sûr que c'est aussi un échec des services de sécurité russes, même si ce sont des agents, des agences super puissants qui aussi... reçoivent beaucoup d'argent de l'État russe. C'est quand même c'est leur échec de ne pas avoir prévu cet attentat. Ça peut être une autre raison pour laquelle ça lui va de rendre Kiev coupable.
On avait jusque-là l'image d'un Vladimir Poutine puissant, intouchable, surtout en matière de sécurité intérieure et extérieure. Il avait notamment promis d'assurer cette sécurité pendant sa campagne présidentielle, quelques jours après avoir été réélu. Donc cet attentat se produit. Est-ce que cet attentat prouve finalement le contraire et l'affaiblit considérablement, d'ailleurs, aux yeux du monde?
Je pense que c'est sûr que ce n'est pas le début de sa présidence qu'il aurait voulu. Ça, c'est clair. Comme j'ai dit, ce n'est pas du tout une bonne image pour l'État de ne pas être capable de protéger les citoyens. En même temps, on sait très bien que les systèmes autoritaires, la protection de ses citoyens, ce n'est pas le premier but. Je ne pense pas que ça va conduire à un affaiblissement. En conséquence, on peut attendre que les restrictions et les mesures de sécurité en Russie vont augmenter.
Vladimir Poutine, qui a d'ailleurs commencé à intensifier ses frappes sur l'Ukraine depuis vendredi, la Russie se dit en situation de guerre, ça c'est pas nouveau. Est-ce qu'on peut penser que c'est que le début de la riposte, que ça va aller encore plus loin?
C'est possible. En même temps, je pense que c'est possible qu'on va voir une intensification des mesures qu'on a déjà vues. Encore plus de personnes qui sont arrêtées en Russie, encore plus de répression des éléments extrémistes, entre guillemets, et encore plus de frappes contre l'Ukraine. Ce n'est pas nécessairement des trucs nouvelles, mais je crois qu'on va voir une intensification. Et en plus, au niveau de la société russe, je pense que ça pourra aussi augmenter la disposition ou la volonté d'utiliser des mesures violentes pour punir les attaquants, mais ensuite augmenter la propension pour la violence dans la société entière, surtout en combinaison avec la guerre en Ukraine et les vétérans russes qui reviennent traumatisés dans leur communauté. Par exemple, on a déjà vu qu'il y a des parlementaires russes qui ont dit qu'il faut rétablir la peine de mort.
Est-ce que finalement cette terrible attaque peut servir Vladimir Poutine dans son conflit face à l'Ukraine?
En fait, moi, je ne suis pas convaincue que ça fait une grande différence pour lui. Je crois qu'il va continuer ce qu'il a commencé il y a 2 ans. La plupart de la population soit est pour, soit ne dit rien contre. C'est possible qu'il va encore intensifier ses frappes et ses efforts, mais on peut imaginer ce développement même sans les attaques. Alors je crois que pour la guerre en Ukraine, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, mais d'un niveau fondamental, ça ne change pas grand chose, je crois.
Je vous remercie beaucoup, Julia Friedrich, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci beaucoup.
Et merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une. C'est tous les jours, du lundi au vendredi et tous les soirs à 19h30 sur BFM Radio.
Vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on revient sur le relèvement du plan Vigipirate en France 2 jours après l'attentat qui a fait 137 morts à Moscou. Il a en fait été revendiqué par une branche de l'État islamique déjà impliquée dans plusieurs tentatives d'attentats déjouées dans plusieurs pays d'Europe, dont la France. Alors que va changer le relèvement du plan Vigipirate en France? On pose la question à Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice pour BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et sur l'ensemble des plateformes d'écoute.